Radio Okapi. Le journal Jacques-Yves Molima. Des combats signalés ce jeudi matin dans la région de Bishushatu, près de Kitianga, dans le territoire des Massissi au Nord Kivu. Et la population continue à dénoncer les abus commis par les rebelles dans la région de Tongo, chefferie de Bwito. Il n'y a plus de plaque d'immatriculation pour le véhicule à Bunia-Nituri. Depuis deux mois, les différents bureaux de la Direction générale des impôts, DGI, sont vides. Pour éviter les tracasseries, certains propriétaires de véhicules ont carrément retiré leurs engins de la circulation. Nous recevons une fois de plus dans cette édition du journal Barnabé Bongabo. Il est président du cadre des concertations de la société civile de la province de l'Équateur, BIS. C'est à la suite de notre série de reportages sur la province de l'Équateur. Cette fois-ci, il revient sur la part de la responsabilité de la population dans la problématique du sous-développement de la province. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, reprise des combats ce jeudi matin dans la région de Bishusha, tout près de Kitianga, en territoire de Massissi, rapporte plusieurs sources locales. Ces combats opposeraient le 1-23 au FRDC ainsi qu'à des groupes armés locaux. Information non encore confirmée par le porte-parole de l'armée en province. D'après plusieurs locaux, les M23 auraient débordé très tôt jusqu'à atteindre Kionga et Bunobua à 4 km de Kitianga. Par ailleurs, la population continue à dénoncer les abus commis par les rebelles dans la région de Tongo, chefferie de Bwito. Le point avec vous, Innocent Fadili.
Les sources de la société civile et les autorités locales dans cette partie indiquent ne pas savoir d'où seraient venus ces rebelles pour se retrouver au niveau des Bishakishaki, Kihonga et Rwambundu. C'est là qu'ils auraient croisé la patrouille des Mai Mai, APCLS et autres avant d'échanger des tirs. Nos sources ajoutent que la situation serait maîtrisée par les FRDC en fin de matinée. L'armée aurait réussi à repousser ces rebelles vers Bwiza, d'où ils seraient partis pour pouvoir se cacher dans les villages. Le porte-parole de la 34e région militaire, joint par Radio Okapi, promet de se prononcer incessamment. D'autre part, la population dénonce le pillage des récoltes dans les champs par les rebelles du M23 dans les localités de Milimbi et Rusekera et aux environs. Les personnes arrêtées lundi auraient été transférées hier soir vers Tongo, une autre grande base militaire des rebelles. Les autorités locales exigent toujours leur libération.
Toujours au Nord Kivu, 7 décès déjà de l'épidémie de choléra dans le site des déplacés de guerre dans les territoires de Nyiragongo. Le chef de division provinciale de la santé parle de décès de trop. Il affirme que plus de 1000 cas sont notifiés depuis la déclaration de cette épidémie le 14 décembre dernier. Ses responsables de la santé en province déclarent que la province se mobilise pour une prise en charge médicale adéquate. Il appelle cependant à des sanctions plus, à des actions plus importantes pour maîtriser cette épidémie. Denise Louquet.
Les victimes de cette épidémie sont essentiellement des enfants déplacés de moins de 5 ans. Quant à la prise en charge médicale, le chef de division provinciale de la santé affirme qu'un centre de traitement est implanté à Munigi pour accueillir les malades, tout comme des autres unités de traitement sont aussi implantées dans les sites des déplacés pour recevoir les cas en urgence. En dépit de toutes les ressources déployées, ces dernières ne couvrent pas tous les besoins exprimés, déplorent ses responsables. Docteur Janvier Kubuya dit que les efforts sont encore à fournir dans la couverture en eau et en latrine pour maîtriser l'épidémie de choléra dans les sites.
Même si nous pouvons sensibiliser qu'on observe les mesures d'hygiène, s'il n'y a pas l'eau, s'il n'y a pas de latrine, difficilement ces mesures basiques peuvent être observées. Et c'est ici justement l'occasion de nous rappeler à nous tous, chacun dans les responsabilités qui sont les siennes, à pouvoir les assumer correctement.
Docteur Kubuya salue l'implication de l'autorité provinciale et du ministère national de la santé qui appuie la coordination. Il demande aux populations de s'approprier des actions menées et activités de réponse. C'est depuis le 14 décembre dernier que l'autorité provinciale a déclaré l'épidémie de choléra dans les territoires de Nyiragongo. Goma, Denise Louquet sur Radio Okapi.
Pendant ce temps, plus de 180 familles de déplacés du site de Salama, dans la commune de Mbunya, dans l'est de la RDC, ont bénéficié ce mercredi de l'assistance en vivres. Ils avaient passé environ deux ans sans recevoir d'aide alimentaire conséquente, ce qui a entraîné des cas d'enfants malnutris sur ce site. L'ONG, Association pour la promotion des droits de la femme et de vulnérables à Prodev-Fev, a distribué des sacs de riz et de haricots pour soulager la souffrance des bénéficiaires en cette période de festivités de fin d'année. Martial Kizabiamungu, reportage.
Les sites de déplacés Salama qui hébergent 786 familles est l'un des trois installés dans la ville de Bounia, mais qui était abandonné par les humanitaires, affirment les bénéficiaires. Ces derniers ont fui depuis le 4 avril 2020 les attaques de la Codeco dans leurs villages de Walou, Malili, Bouzézélé et Kilo. Accablés par la famine qui était à l'origine de plusieurs cas de malnutrition, ils ont plaidé maintes fois pour une aide alimentaire, mais en vain. C'est après environ 2 ans que l'ONG Aprodev leur a apporté des vivres composés de 3500 kg d'haricots, d'une tonne de riz et de sel grâce à l'appui des CICR. La coordonnatrice de cette ONG, Chantal Bossi.
Pour la prochaine fois, si CICR peut nous doter des vivres, il faut qu'ils puissent augmenter la quantité.
Les bénéficiaires se disent satisfaits de cette assistance qui vient atténuer leur souffrance. Cependant, les besoins restent énormes et nécessitent l'intervention d'autres partenaires. Kiza Anne-Marie, présidente du comité de déplacés du site.
Nous disons merci à cette ONG d'avoir pensé à nous par la nourriture. Que ce soit un exemple pour d'autres ONG.
Ces personnes déplacées plaident pour le rétablissement de la paix pour leur permettre de retourner dans leur village d'origine. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Autre nouvelle, au Sud Kivu, la nouvelle dynamique de la société civile salue la prolongation du mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo jusqu'en décembre 2023. Une résolution du Conseil de sécurité votée le 20 décembre dernier. Toutefois, elle constate que le Conseil de sécurité de l'ONU ne confie aucun rôle à la MONUSCO pour appuyer le processus électoral en RDC au cours de l'année 2023. C'est notamment au sujet de l'appui logistique, mais aussi de la sécurisation des potentiels candidats à tous les niveaux. Maître Jean Chrysostome Kijana, président de la nouvelle dynamique de la société civile, s'exprime au micro de Emmanuel Elamejiwa Kabidi.
S'agissant de la prolongation du mandat de la MONUSCO, nous avons aussi pris acte, nous sommes dans la logique de ne pas faire une sortie précipitée de la MONUSCO. Il faut que la MONUSCO puisse partir de manière échelonnée, suivant le plan de retrait progressif qui a déjà été adopté par le même Conseil de sécurité des Nations Unies. Et mais nous avons remarqué que parmi les priorités qu'on a assignées à la MONUSCO pour cette prolongation, on n'a pas fait allusion aux élections. Nous avons besoin des élections crédibles, transparentes, et la MONUSCO a un grand rôle à jouer dans ce processus, notamment sur le plan logistique, mais aussi d'assurer la sécurité à tous les potentiels candidats. Tous les citoyens congolais se sentent sécurisés, et la MONUSCO a déjà eu à faire preuve par le passé de ses capacités dans ce domaine, donc on aurait souhaité que le Conseil de sécurité puisse aussi maintenir parmi les priorités qu'on confié à la MONUSCO durant cette année de prolongation, qui est cette dimension de la consolidation de la démocratie à travers des élections démocratiques et transparentes.
Et puis, nous l'avons dit au sommaire, en Ituri, plusieurs véhicules circulent sans plaque d'immatriculation. Selon le propriétaire concerné, les plaques sont épuisées depuis plus de 2 mois maintenant dans les différents bureaux de la Direction Générale des Impôts, DGI. Un manquement qui les expose aux tracasseries de la police de circulation routière. Alors, pour les éviter, d'autres ont fait le choix de retirer leurs véhicules de la circulation. Le bureau de la DGI rassure qu'un nouveau lot de plaques arrivera de Kinshasa au cours du mois. Isaac Remoyope.
Au moins 2 véhicules sur 5 circulent sans plaque d'immatriculation dans la ville de Bounia. Même décor au chef-lieu de territoire, notamment à Haru et Mahagi, où plusieurs véhicules importés traînent au poste douanier à la frontière avec l'Ouganda. Les propriétaires déplorent la rupture des stocks de plaques d'immatriculation dans tous les bureaux de la DGI, qui leur cause beaucoup de préjudices. Certaines voitures destinées à la vente ou à l'évacuation dans d'autres provinces sont bloquées. Ils se disent également victimes des tracasseries policières. Ils expriment leur ras-le-bol.
À la DGI, il n'y a pas de plaque. Or, à Bounia, il y a déjà trop de véhicules. Il y a aussi le problème des PCR. Elles ne laissent pas les gens circuler librement. Or, les problèmes se posent au niveau de la DGI. Ils ne voient pas ça. Ils ne voient que leur intérêt. Donnez quelque chose et vous partez.
On n'a pas de plaque. Si aujourd'hui, là, si on voulait avoir les plaques, on fait recours aux provinces de la Tchopo. Le roulage, il nous fait du genre de tracasserie parce qu'on n'a pas de plaque.
D'autres chauffeurs ont résolu de garder leurs véhicules à la maison pour échapper aux tracasseries. Selon les autorités de la police, leurs éléments procèdent au contrôle contrôle des documents des véhicules pour des raisons de sécurité en vue de lutter notamment contre la fraude et le vol des engins. Elle déclare que des véhicules qui n'ont pas de plaques peuvent exhiber les preuves de paiement à la DGI. De son côté, la direction provinciale de la DGI à Ituri indique que les plaques seront disponibles cette semaine. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Autre nouvelle, l'Agence des zones économiques spéciales appelle la Fédération des entreprises du Congo à investir dans les zones économiques spéciales installées dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Josephine Mbombo, présidente du conseil d'administration de l'AZES, a lancé cet appel ce mercredi 21 décembre en marge de la première réunion du conseil d'administration tenue ici à Kinshasa. Paul Matendo.
Pour Josephine Mbombo, les zones économiques spéciales ZES de la RDC ne sont pas uniquement réservées aux investisseurs étrangers.
Partout où nous nous promenons, nous devons attirer, inviter les investisseurs à venir. Au niveau du pays, surtout la FEC, pense que investir dans une zone économique n'est que, celui qui peut investir ne peut être que un investisseur qui vient de l'extérieur. Ça a été vraiment un moment de pouvoir sensibiliser aussi la FEC à pouvoir rejoindre les zones économiques spéciales pour s'y installer.
Ogui Bolanda, directeur général de l'AZES, demande à ses collaborateurs de se mobiliser afin d'obtenir le moyen de rendre ces ZES une réalité.
Mais vous avez suivi dernièrement au niveau du Conseil des ministres, le président de la République a parlé des moyens qui devaient être mis à disposition de l'AZES. Alors, si nous n'avons pas ces moyens-là, ça ne marchera pas. Et nous avons conscientisé nos collègues du conseil d'administration pour que chacun puisse savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour que les moyens que nous attendons soient mis à disposition de l'AZES.
Ogui Bolanda appelle les autorités à disponibiliser des espaces pour installer les AZES.
Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. Direction Nord Kivu, le Parlement d'enfants Boutembo Lubero attire l'attention des enfants pendant cette période de festivités de fin d'année au vu de la situation sécuritaire précaire dans la région. Dans un communiqué de presse rendu public ce jeudi, elle appelle les enfants à être plus prudents face aux enlèvements, par exemple, et aux parents à plus veiller et à protéger leurs enfants. Les autorités, elles, sont invitées à protéger ces enfants et la population en général. Écoutons Rigen Bagaye, président du Parlement d'enfants Boutembo Lubero, au micro de Grévis Salomon.
Les temps que nous préparons la fête, la ville, elle est en train de vibrer sous le rythme de l'insécurité. Ils doivent être beaucoup plus prudents pendant cette période. Voir aussi la période qui suivra les prochaines fêtes, parce que avec les souvenirs que nous avons, avec les fêtes des années passées, il y a beaucoup d'événements tragiques, mais également pendant cette période, il se présente beaucoup de gens mal intentionnés qui cherchent à kidnapper les enfants pour se faire de l'argent afin de bien passer cette fête. C'est là que nous appelons les enfants à la prudence, à bien se sécuriser pendant ces temps où ils ne doivent pas soit ils ne doivent pas répondre à des appels des inconnus ou même être trop gentils avec des inconnus. Mais aussi pendant la fête, les enfants doivent s'abstenir de certaines mauvaises pratiques pour tous les parents. C'est d'assurer une sécurité assez exceptionnelle aux enfants, mais aussi les conscientiser afin de ne pas faire des sorties intempestives ou même des sorties nocturnes, car cela est trop dangereux pour eux. Aux autorités, d'assurer une sécurité à toute la population, d'avoir une particularité aux enfants, parce que ce sont eux qui sont le plus exposés pendant ces temps.
Et puis, toujours Nord Kivu, cette fois-ci à Goma, une centaine d'enfants orphelins venus des différents centres d'encadrement ont fêté déjà Noël hier, mercredi, avec leurs camarades de l'école. Un jour nouveau, un moment de partage d'amour et de convivialité entre ces enfants. Cérémonie marquée par plusieurs temps forts, notamment des chants et danses, du théâtre, des poèmes et bien d'autres. Sifa Maguru.
Vous êtes des leaders, vous êtes une solution, une génération qui va changer le monde. C'est par ces mots d'encouragement de la part de la gestionnaire de l'école Un Jour Nouveau, Madame Clarisse Soudi, que ces orphelins venus des centres Light of World, Lutonde et Ocho Centre ont été accueillis dans l'enceinte de l'école Un Jour Nouveau pour célébrer la fête de la Nativité de Jésus-Christ. Un moment de partage, d'amour et de convivialité entre ces enfants, comme ont pu les témoigner les élèves tout joyeux.
Il y avait le sentiment de la joie, voir les autres aussi partager avec nous la fête de Noël.
Il y avait le sentiment de la tristesse de voir que des enfants comme nous n'ont pas de parents et n'ont pas de foyer.
Je vois de la joie quand on les a servis, tout ça, du cadeau, voilà.
Ces enfants sont également revenus sur l'essence de la fête de la Nativité et l'ont exprimé en termes de messages adressés à leurs invités.
Noël, c'est un moment de partage, pas seulement des cadeaux que tu dois offrir. Tu dois ressentir l'amour parce que le Christ est mort pour toi. Il est né le 25, c'est pour cela qu'on célèbre Noël. C'était bien, on était contents.
Des cadeaux ont également été remis à ces enfants vulnérables pour leur permettre de bien passer la période des fêtes de fin d'année. Goma Sifamagour, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, durant ce préparatif des festivités de fin d'année, des fêtes où les enfants prennent une part importante, Radio Kapi a promené son micro pour connaître les ententes des enfants de la capitale. Si les uns veulent fêter en famille en partageant un repas spécial et en rendant visite à leurs proches, les autres sont impatients de recevoir des cadeaux de la part de leurs parents et autres tuteurs. Écoutons-les au micro d'Innocent Fadili.
J'ai besoin qu'on m'achète des habits, qu'on décore la maison, qu'on puisse bien manger, qu'on puisse bien fêter. Papa sait déjà. Il va nous acheter les vêtements. Il va aussi nous acheter des ballons d'air pour décorer la maison.
Pour les festivités, on achète déjà les nourritures, les viandes, on met déjà au congélateur. On a déjà tué la chèvre. On a acheté des ingrédients pour préparer. Pour les 25.
Papa part, nous achète un sapin de Noël, on décore la maison. Oui, il a déjà acheté. Il a dit qu'il va nous ajouter des habits pour Noël. On a déjà décoré la maison avec des ballons d'or.
25 décembre.
Les jouets.
Quoi encore?
Les ballons.
On compte organiser une petite chorégraphie pour montrer aux aînés. On compte aussi faire des poèmes, comme moi je compte faire un poème pour mon père et pour ma mère pour les remercier pour tout quoi. Pour l'instant, je suis en train d'abord d'écrire les poèmes. Pour le 25, on compte seulement sortir.
On ira, ouais, parce que mon grand-père, il ne peut pas marcher, il sort pas. Donc on ira les voir. On va fêter avec lui, on va lui payer aussi des cadeaux parce que son anniversaire, c'est le 24. Donc un jour avant Noël aussi.
Actualité internationale.
Le Kremlin a estimé jeudi 22 décembre que la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky aux États-Unis n'a illustré aucune volonté d'écouter la Russie et que Washington menait en Ukraine de facto une guerre indirecte contre Moscou. Jusqu'à présent, nous pouvons constater avec regret que ni le président américain Joe Biden ni le président Zelensky n'ont dit quoi que ce soit qui puisse être perçu comme une volonté potentielle d'écouter les préoccupations de la Russie, a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov.
L'invité.
La population de l'Équateur a aussi une part de responsabilité dans la problématique du sous-développement de cette province, car plusieurs habitants se livrent à la pratique de la main tendue. C'est parmi les thèses que soutient le président du cadre de concertation de la société civile de la province de l'Équateur BIS. Barnabé Bongambo pointe aussi du doigt les tracasseries administratives et fiscales qui étouffent les initiatives privées. C'est notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient avec Paul-Richard Malengela. Suivez.
Monsieur Barnabé Bongambo, bonjour.
Bonjour.
D'où vient la faiblesse de l'initiative privée dans l'Équateur?
La faiblesse de l'initiative privée, c'est ce que nous venions de dire. L'esprit d'entrepreneuriat, nous n'avons pas cette culture ici dans la province de l'Équateur. Parce que, et nous revenons à charge pour dire que la province de l'Équateur, la plupart des gens développent et continuent à développer la culture de ce que nous avons appelé le mécanisme des singes compatissants.
C'est-à-dire?
La main toujours tendue. La population de l'Équateur n'a pas cette culture d'investissement. Donc, on veut gagner du tic au tac. C'est pour ça que vous constatez, quand vous sillonnez les centres-villes ici de Mbandaka, vous ne trouverez même pas d'initiative locale en termes même de petites industries. Mais c'est tout le monde qui se lance dans le secteur informel. Hein? Dans le secteur tertiaire, nous voulons dire, tant informel que formel. Alors qu'ailleurs, ça ne devait pas être comme ça. C'est ça le vrai problème au niveau de la province de l'Équateur. Y ajouter aussi qu'au niveau local, n'est-ce pas, l'État local, l'État provincial, ne facilite pas aussi la tâche au niveau des opérateurs économiques qui sont dans la province de l'Équateur. Ça, il faut les reconnaître.
Ils sont asphyxiés.
Ils sont asphyxiés, exactement. Il y a trop de tracasseries, et alors trop de tracasseries qui découragent aussi, disons, l'émergence des initiatives privées que vous venez de dire.
En définitive, quels sont les atouts naturels à capitaliser dans la recherche des solutions aux problèmes de l'Équateur?
Les atouts naturels qui peuvent contribuer au développement de la province de l'Équateur. D'abord, nous avons le secteur forestier en termes de l'exploitation du bois, tant au plan industriel qu'au plan artisanal.
Il y a aussi la conservation avec les tourbières.
Nous y arriverons, nous commençons par là. Lorsque c'est bien drainé, ça peut contribuer au développement. Nous avons aussi la conservation. Vous comprenez, nous avons des tourbières, tout ceci, nous sommes dans les contextes de développement durable. Lorsque l'on s'y met là, et en contrepartie, la province peut bénéficier de ce qu'on appelle des paiements de services environnementaux. Ça peut rapporter au niveau de la province. Mais ce qui importe, et nous insistons, c'est un leadership politique éclairé, un leadership politique transformationnel qui est là vraiment au service de la province. Et ça peut permettre à ce que le développement de l'Équateur soit boosté. Vous savez que la province de l'Équateur, ici même dans son actuelle configuration, a eu beaucoup d'entreprises. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il n'y a à peine que 2 agro-industries. Il y a PHT Boteka et il y a CCP là, au niveau de Bassankous. Alors que par là, quand vous sillonnez, il y a autant de plantations abandonnées, il y a autant d'agro-industries abandonnées. Et il suffit que, et nous revenons, qu'au niveau de la province, qu'on ait cette capacité managériale de négocier, n'est-ce pas, avec les investisseurs, ça peut aussi contribuer au développement de la province de l'Équateur. Mais à côté, bien sûr, de l'agro-industrie, il y a l'agriculture paysanne. Autrefois, ça a contribué, n'est-ce pas, au développement socio-économique de la province de l'Équateur. Aujourd'hui, les paysans de la province de l'Équateur sont abandonnés à leur triste sort. Alors que c'est ce secteur-là, que nous pouvons même dire agriculture familiale, qui constitue au moins 90%, n'est-ce pas, dans ce secteur-là par rapport au secteur industriel. Nous avons parlé même au niveau des ressources halieutiques. La province de l'Équateur a beaucoup de plans d'eau ici et tous ces plans d'eau sont riches en poissons. Et il suffit tout simplement que la province s'organise, on peut développer aussi le secteur de la pêche, même au niveau de la pêche artisanale. C'est question de bien organiser les choses, ça peut aussi rapporter, n'est-ce pas, de l'argent à l'économie de la province.
Cela ne nécessiterait pas aussi un coup de pouce du pouvoir central?
Peut-être en appui, mais n'oubliez pas que le secteur de l'agriculture est parmi les domaines qui sont décentralisés. Et c'est d'abord la province qui doit prendre le taureau par les cornes. Et le niveau central peut venir en appui.
Barnabé Bongambo, Radio Capi vous dit merci.
C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.